Chapitre 3. Elle était venue. Elle était rentrée dans ce lieu où chaque chose gardait pour elle un souvenir, et elle avait dit « Je ne suis plus tienne, je ne pourrai plus être tienne, jamais. » Elle lui avait jeté ce cri « Souffrirais-tu de partager mon corps avec un autre ?» Oui, elle avait osé lui jeter cette phrase, en ce lieu, à l'aspect de ces choses. Une douleur atroce et immense, faite de 1000 blessures distinctes l'une de l'autre et plus perçantes l'une que l'autre, s'empara de lui et l'exaspéra. De nouveau, la passion l'enveloppa de 1000 feux, ralluma en lui une inextinguible ardeur pour cette femme qui n'était plus sienne, réveilla dans sa mémoire les moindres particularités des voluptés passées, les images de toutes les caresses, de toutes les outrances folles qui ne rassasiaient ni ne contentaient leurs désirs sans cesse renaissants. Et néanmoins, dans chacune de ces imaginations, persistait la même difficulté étrange à identifier l'Hélène d'autrefois avec l'Hélène d'aujourd'hui. Tandis que les souvenirs de la possession l'embrasaient et le torturaient, la certitude de la possession lui échappait. L'Hélène d'aujourd'hui lui paraissait une femme nouvelle, jamais possédée, jamais étreinte. Le désir lui causa de si violentes tortures qu'il crut en mourir. L'impureté l'infecta comme un poison. L'impureté, qu'alors la flamme ailée de l'âme enveloppée d'un voile sacré, entourée d'un mystère presque divin, se montrait maintenant, sans le voile et sans le mystère de la flamme, comme une lascivité exclusivement charnelle, comme une basse débauche. Et il sentait que son ardeur d'aujourd'hui n'était pas l'amour, qu'elle n'avait plus rien de commun avec l'amour. Non, ce n'était pas l'amour. Car elle lui avait crié « Souffrirais-tu de partager mon corps avec un autre ?» Eh bien oui, il l'aurait souffert. Il l'aurait prise sans répugnance, telle qu'elle, souillée par l'embrassement d'un autre, il aurait mis sa caresse sur la caresse d'un autre, il aurait imprimé son baiser sur le baiser d'un autre. Rien en lui, non, rien ne demeurait intact. Le souvenir même de sa grande passion se corrompait misérablement, se salissait, s'avilissait. La dernière lueur d'espérance était éteinte. Il avait enfin touché le fond pour ne plus remonter jamais. Cependant, une horrible fureur l'envahit d'abattre l'idole qui, malgré tout, se dressait encore, haute et énigmatique, devant sa pensée. Avec une cruauté cynique, il se mit à l'insulter, à la saper, à la mutiler. Cette analyse destructive, dont il avait déjà fait sur lui-même l'expérience, il en usa contre Hélène. Tous les problèmes obscurs auxquels il avait autrefois voulu se soustraire, il entreprit maintenant de les résoudre. De tous les soupçons qui autrefois se présentaient et se dissipaient sans laisser de traces, il étudia maintenant l'origine, retrouva la justification, obtint la confirmation. Il s'imaginait que cette rageuse besogne lui apporterait un soulagement, mais il ne faisait qu'accroître sa souffrance, irriter son mal, élargir ses plaies. Quel avait été le motif réel du départ d'Hélène en mars 1885 ? Beaucoup de bruits divers avaient couru en ce temps-là et aussi au moment où elle s'était remariée avec Humphrey Hetfield. Mais la vérité, la seule vérité, c'était ce que lui dit un soir Jules Musellaro à la sortie d'un théâtre, par hasard, entre autres bavardages en l'air. Et André fut immédiatement convaincu. Hélène Mood y s'en était allée pour des questions d'argent, pour combiner une opération qui devait la tirer d'embarras pécuniaires très graves où l'avait mise une excessive prodigalité. Son mariage avec Lord Hetfield l'avait sauvée d'un désastre. Cet Hetfield, marquis de Mountaincombe et comte de Bradford, possédait une fortune considérable et était allié à la plus haute noblesse anglaise. Hélène avait su arranger ses affaires avec beaucoup d'adresse, avait su détourner le péril avec une habileté prodigieuse. Certes, ces 3 ans de veuvage ne semblaient pas avoir été un chaste intermède préparatoire aux secondes noces, ni chaste ni même prudent. Mais sans aucun doute, Hélène était une femme supérieure. « Oui, mon cher, une femme supérieure, » répéta Musellaro, « et tu le sais bien. » André se tut. « Mais je ne te conseille pas de renouer avec elle, » continua Musellaro en jetant sa cigarette qui s'était éteinte pendant qu'il bavardait. « Rallumer un amour, c'est comme rallumer une cigarette. Le tabac s'empoisonne et l'amour aussi. Allons-nous prendre une tasse de thé chez la Mochetto ? Elle m'a dit qu'on peut aller chez elle après le théâtre. Il n'est pas trop tard. » Il se trouvait sous le palais Borghese. « Vas-y, toi, » dit André. « Moi, je rentre à la maison pour dormir. La chasse d'aujourd'hui m'a un peu fatiguée. Mes compliments à Donne à Julie. Bonne chance. » Musarel monta. André continua de descendre vers la Trinité, par la fontaine Borghese et par la rue des Condotti. C'était une nuit de janvier, froide et sereine, une de ces merveilleuses nuits hivernales qui font de Rome une ville d'argent fin, enfermée dans une sphère de diamants. La lune pleine, au milieu du ciel, versait la triple pureté de la lumière, du froid et du silence. Il cheminait sous la lune comme un somnambule, n'ayant conscience que de sa douleur. Le dernier coup était porté, l'idole s'écroulait, rien ne restait debout sur les ruines, c'était la fin de tout, pour toujours. Ainsi, c'était vrai, jamais elle ne l'avait aimé. Sans hésiter, elle avait conclu un mariage d'intérêt. Et à cette heure, elle prenait devant lui une attitude de martyr, elle s'enveloppait dans un voile d'épouse inviolable. Un rire amer lui montait du cœur. Ensuite, une colère sourde le poussa contre cette femme et l'aveugla. Les souvenirs de la passion furent impuissants. Tout le passé lui apparut comme une grande tromperie, comme un grand mensonge, énorme et cruel. Et cet homme, qui s'était fait dans la vie une habitude de la tromperie et du mensonge, cet homme qui avait trompé et menti tant de fois, sentit que la fraude d'autrui l'offensait, l'indignait, lui répugnait comme une faute impardonnable, comme une monstruosité inexcusable et, de plus, inexplicable. Il ne parvenait pas à s'expliquer comment Hélène avait pu commettre un tel crime et, bien qu'il ne le comprît pas, il lui refusait toute possibilité de justification, il repoussait l'hypothèse qu'une cause secrète quelconque l'eût déterminé à cette fuite soudaine. Il ne réussissait à voir que le fait brutal, la bassesse, la vulgarité. La vulgarité surtout, grossière, manifeste, odieuse, sans nulle circonstance atténuante. En somme, voici de quoi il s'agissait. Une passion en apparence sincère, jurée profonde et inextinguible, avait été rompue pour une affaire d'argent, pour un intérêt matériel, pour un arrangement commercial. Ingrat, ingrat, que sais-tu des événements et que sais-tu de ma souffrance? Qu'en sais-tu? Ces paroles d'Hélène lui revinrent à la mémoire, précises. Toutes les paroles qu'elle avait dites, depuis le commencement jusqu'à la fin de l'entretien devant la cheminée, lui revinrent à la mémoire. Les paroles de tendresse, les offres de fraternité, toutes ces phrases sentimentales. Il repensa aussi à la larme qui lui avait voilé les yeux, à ses changements de physionomie, à son tremblement, à sa voix s'étranglant dans l'adieu, lorsqu'il lui avait posé sur les genoux la botte de rose. Pourquoi donc avait-elle consenti à venir? Pourquoi avait-elle voulu jouer ce rôle, provoquer cette scène, ourdir ce nouveau drame ou cette nouvelle comédie? Pourquoi? Il était arrivé au haut de l'escalier, sur la place déserte. Subitement, la beauté de la nuit lui donna une aspiration vague, mais navrée, vers un bien inconnu. L'image de la siennoise lui traversa l'esprit. Il eut au cœur une palpitation forte, comme sous le heurt d'un désir. Il pensa au bonheur de tenir les mains de Marie dans les siennes, de courber son front sur le sein de Marie, de sentir qu'elle le consolait sans parole par sa seule pitié. Ce besoin de pitié, de refuge, de compassion fut comme le dernier sursaut de son âme qui ne se résignait pas à périr. Il baissa la tête et rentra à la maison sans plus se retourner pour regarder la nuit. Thérence, qui l'attendait dans l'antichambre, le suivit dans la chambre à coucher où il y avait du feu. Il lui demanda « Monsieur le comte va se mettre au lit tout de suite ?»« Non, Thérence, apporte-moi du thé, » répondit-il en s'asseyant devant le feu et en tendant les mains vers la flamme. Il tremblait d'un petit tremblement nerveux. Il avait prononcé ces mots avec une étrange douceur. Il avait appelé le domestique par son prénom, il avait tutoyé. « Monsieur le comte a froid ?» demanda Thérence avec un affectueux empressement, encouragé par l'affabilité de son maître. et il se pencha sur les chenets pour raviver le feu où il mit de nouvelles bûches. C'était un vieux serviteur de la maison Sperelli. Il avait été de longues années au service du père d'André, et son dévouement pour le jeune homme allait jusqu'à l'idolâtrie. Aucune créature humaine ne lui semblait plus belle, plus noble, plus sacrée. Il appartenait réellement à cette race idéale qui fournissait les fidèles serviteurs aux romans d'autrefois. Mais à la différence des serviteurs de romans, il parlait peu, ne donnait pas de conseils, ne s'occupait de rien que d'obéir. « C'est bien comme cela, » dit André en tâchant de vaincre son tremblement convulsif et en se rapprochant du feu. À cette heure mauvaise, la présence du vieillard lui donnait une singulière émotion. C'était une émotion un peu semblable à la faiblesse qui, en présence d'une personne très bonne, gagne les hommes résolus au suicide. Jamais autant qu'à cette heure, le vieillard n'avait évoqué en lui la pensée de son père, la mémoire du cher défunt, le deuil du grand ami perdu. Jamais autant qu'à cette heure, il n'avait éprouvé le besoin d'un réconfort intime, de la voix et de la main paternelle. Le père, qu'aurait-il dit s'il avait vu son fils terrassé par l'horrible détresse? Comment l'aurait-il soulagé? Qu'aurait-il pu faire pour lui? Sa pensée allait au mort avec un regret immense. Et il n'avait pas même l'ombre d'un soupçon que la cause lointaine de sa détresse fût dans l'ambiguïté des enseignements paternels. Thérence apporta le thé. Puis il se mit à préparer le lit, lentement, avec une sollicitude presque féminine, sans oublier aucune chose, comme s'il eût voulu assurer jusqu'au lendemain à son maître un repos parfait, un sommeil imperturbable. André suivait des yeux tous ses gestes, avec une émotion croissante, au fond de laquelle il y avait aussi comme un vague sentiment de pudeur. Cela lui faisait mal de voir la peine que ce bon vieillard prenait autour de ce lit où avaient passé tant d'amours immondes. Il lui semblait que ses mains séniles en remuaient inconsciemment toutes les impuretés. « Va dormir, Thérence, lui dit-il, je n'ai plus besoin de rien. » Il resta seul devant le feu, seul avec son cœur, seul avec sa tristesse. Agité par son tourment intérieur, il se leva, se promena de long en large. La vision de la tête d'Hélène sur l'oreiller découvert l'obsédait. Chaque fois qu'il se retournait en arrivant à la fenêtre, il croyait la voir et il avait un sursaut. L'extrême faiblesse de ses nerfs favorisait tous les désordres de son imagination. L'image hallucinante devenait plus intense. Il s'arrêta, cacha sa figure dans ses mains pour contenir son trouble. Ensuite, il tira la courte pointe sur l'oreiller et il alla se rasseoir. Alors une autre image lui monta dans l'âme, Hélène entre les bras du mari, cette fois encore avec une implacable netteté. Ce mari, André le connaissait mieux maintenant. Le soir même, au théâtre, dans une loge, Hélène les avait présentés l'un à l'autre et il avait pu l'observer attentivement, minutieusement, avec une curiosité aiguë, comme pour en tirer quelques révélations, comme pour lui arracher un secret. Il entendait encore la voix de cet homme, une voix d'un timbre bizarre, un peu criarde, qui donnait au début de chaque phrase une intonation interrogative. Et il revoyait ses yeux très clairs sous le grand front convexe, ses yeux qui prenaient parfois des reflets morts d'yeux de verre ou qui s'animaient d'un éclat indescriptible, rappelant un peu le regard d'un maniaque. Et il revoyait aussi ces mains blanchâtres, semées d'un duvet très blond, qui, dans chacun de leurs mouvements, pour prendre le binocle, pour déployer le mouchoir, pour se poser sur le devant de la loge, pour feuilleter le livret de l'opéra, avaient quelque chose d'obscène. Des mains empreintes de vice, des mains sadiques. Il voyait ses mains toucher le corps nu d'Hélène, ce corps si beau, le profaner de leurs audacieuses caresses. Quelle horreur ! C'était un supplice intolérable. Il se leva de nouveau, alla ouvrir la fenêtre, frissonna sous la bise, se secoua. La trinité des monts resplendissait dans l'azur, profilée en traînait comme gravée dans un marbre à peine teinté de rose. Plus bas, Rome avait un éclat cristallin, comme une ville qui serait creusée dans un glacier. Ce calme, froid et limpide, ramena son esprit vers la réalité, lui rendit la conscience vraie de son état. Il referma la fenêtre et retourna s'asseoir. De nouveau, l'énigme d'Hélène l'attira. Les questions revinrent, se posèrent en tumulte, l'obsédèrent. Mais il eut la force de les classer, de les coordonner, de les examiner une à une, avec une lucidité étrange. Plus il avançait dans l'analyse, plus sa lucidité croissait, et il jouissait de son œuvre cruelle comme d'une vengeance. Enfin, il lui semblait avoir mis une âme à nu, avoir pénétré un mystère. Il lui semblait enfin posséder Hélène plus intimement qu'il ne l'avait possédée au jour de l'ivresse. Qu'était-ce que cette femme ? C'était un esprit sans équilibre dans un corps voluptueux. Comme toutes les créatures avides de plaisir, elle avait pour base de son être moral un égoïsme démesuré. Sa faculté dominante et, pour ainsi dire, son axe intellectuel, c'était l'imagination, une imagination romanesque nourrie de lectures très diverses, directement dépendantes du sexe, continuellement stimulée par la névrose. Douée d'une certaine intelligence, élevée dans le luxe d'une princière maison romaine, dans ce luxe papal fait d'art et d'histoire, elle avait reçu une vague teinture esthétique, elle avait acquis un goût élégant, et de plus, ayant bien compris le caractère de sa beauté, elle cherchait, avec d'adroite simulation et avec une mimique savante, à en rehausser la spiritualité par un nimbe captieux d'idéal. Aussi apportait-elle, dans la comédie humaine, des éléments très dangereux, et elle y était une occasion de ruine et de désordre, plus que si elle eût fait profession publique d'impudicité. Sous l'ardeur de l'imagination, chacun de ses caprices prenait une apparence pathétique. Elle était la femme des passions foudroyantes, des incendies soudains. Elle recouvrait de flammes éthérées les besoins de sa chair et savait transformer en noble sentiment un vulgaire appétit. Tel était le jugement féroce porté par André sur la femme adorée jadis. Il poursuivait son impitoyable examen sans s'arrêter devant les plus beaux souvenirs. Au fond de tous les actes et de toutes les paroles d'Hélène, il trouvait l'artifice, l'étude, l'habileté, une admirable désinvolture pour exécuter un thème de fantaisie, pour réciter un rôle dramatique, pour combiner une scène extraordinaire. Il n'épargna aucun des plus mémorables épisodes, ni la première rencontre au dîner chez les Athéleta, ni la vente du cardinal Inmerraet, ni le bal à l'ambassade de France, ni le don soudain d'elle-même dans la chambre rouge du palais Barberini, ni l'adieu dans la campagne Sabine par cette soirée de mars. Le magique breuvage qu'il avait enivré autrefois lui paraissait maintenant une mixture perfide. Néanmoins, quelquefois, il lui arrivait de rester perplexe, comme si, en pénétrant dans l'âme d'Hélène, il eût pénétré dans son âme propre, et comme s'il eût, dans la fausseté de cette femme, retrouvé sa propre fausseté. Il y avait tant d'affinités entre leurs deux natures. Et, insensiblement, son mépris se changea en indulgence ironique, car il comprenait. Il comprenait tout ce qu'il retrouvait en lui-même. Alors, avec une lucidité froide, il arrêta son plan de conduite. Toutes les particularités de l'entretien, qui avait eu lieu plus d'une semaine auparavant, le jour de la Saint-Sylvestre, lui revinrent à la mémoire, et il se complut à reconstruire la scène avec une sorte de cynique sourire intérieur, mais sans aucune indignation, sans aucune agitation, en souriant d'Hélène et en souriant de lui-même. Pourquoi était-elle venue ? Elle était venue parce que ce rendez-vous impromptu avec un ancien amant, dans un lieu qu'elle connaissait, après un intervalle de 2 années, lui avait paru étrange, avait tenté son esprit avide d'émotions rares, avait tenté sa fantaisie et sa curiosité. Ce qu'elle se proposait maintenant, c'était de voir à quelle situation neuve et à quelles intrigues neuves l'amènerait ce jeu hardi. Ce qui l'attirait, c'était peut-être la nouveauté d'un amour platonique avec le même personnage qui avait été déjà l'objet de sa passion sensuelle. Comme toujours, elle avait mis une certaine ardeur à imaginer un tel sentiment, et d'ailleurs, il se pouvait aussi qu'elle crût à sa propre sincérité et que cette sincérité illusoire lui fournit ses accents de profonde tendresse, ses attitudes éplorées, ses larmes. Ce qui lui arrivait, c'était un phénomène bien connu. Elle finissait par croire véritable et durable un mouvement artificiel et fugitif de son âme. Elle avait, pour ainsi dire, une hallucination sentimentale, comme d'autres ont une hallucination physique. Elle perdait la conscience de son mensonge. Elle ne savait plus si elle était dans le vrai ou dans le faux, dans la sincérité ou dans la fiction. Or, c'était précisément ce même phénomène moral qui se répétait sans cesse en lui. Par conséquent, il n'aurait pas pu l'accuser sans injustice. Mais, naturellement, cette découverte lui enlevait tout espoir de plaisir qui ne fût pas charnel. Désormais, la défiance lui interdisait toutes les douceurs de l'abandon, toutes les ivresses de l'esprit. Tromper une femme confiante et fidèle, se réchauffer à une grande flamme excitée par une feinte ardeur, dominer une âme par l'artifice, la posséder tout entière et la faire vibrer comme un instrument, aberrer, non aberrie, cela peut être d'une haute jouissance. Mais tromper en sachant qu'on est trompé, c'est une sotte et stérile besogne, un jeu fastidieux et inutile. Il devait donc obtenir qu'Hélène renonçât à l'idée d'être une sœur et lui revint entre les bras comme jadis. Il devait reprendre possession de cette femme si belle, tirer de sa beauté la plus grande somme possible de plaisir et s'affranchir pour jamais de cette passion par la satiété. Mais une telle entreprise exigeait de la prudence et de la patience. Déjà dans le premier entretien, son ardeur violente lui avait mal réussi. Évidemment, elle fondait son projet d'impeccabilité sur la fameuse phrase « Souffrirais-tu de partager mon corps avec un autre ?» Le ressort de la grande machination platonique, c'était cette sainte horreur des partages. Du reste, il se pouvait qu'au fond, tout au fond, cette horreur fût sincère. Presque toutes les femmes qui se sont adonnées à l'amour, si elles viennent à convoler en juste noce, affectent dans les premiers temps de leur mariage une pureté farouche et se mettent à faire profession d'honnêteté conjugale avec une franche résolution. Or, il se pouvait qu'Hélène aussi fût prise du commun scrupule. Et en ce cas, rien ne serait pire que de l'attaquer de front et de heurter ouvertement sa nouvelle vertu. Il convenait, au contraire, de seconder ses aspirations spirituelles, de l'accepter comme la plus chère des sœurs, la plus douce des amies, de l'enivrer d'idéal, de platoniser avec adresse, puis, peu à peu, de l'amener d'une fraternité candide à une amitié voluptueuse et d'une amitié voluptueuse au total abandon de sa personne. Vraisemblablement, les transitions seraient très rapides. Tout dépendait de l'occasion. Ainsi raisonnait André Sperelli devant le foyer qui avait illuminé son amante Hélène, toute nue, enveloppée dans le zodiaque, riant parmi les roses éparses. Et sur lui pesait une lassitude immense, une lassitude qui n'appelait pas le sommeil, une lassitude si vide et si désolée qu'elle ressemblait à un besoin de mourir, tandis que le feu s'éteignait sur les landiers et que le breuvage se refroidissait dans la tasse.